Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Le président Jokowi félicite le président américain Elo Donald Trump. Le dialogue des affaires entre l'Union européenne et l'Indonésie à Jakarta. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie, CADIN, a demandé au gouvernement de réétudier les règles de certification halal. Et enfin, le ministère de l'Industrie veut que les exportations de CPO vers le français, vers la France, se déroulent bien. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a félicité mercredi le président élu des États-Unis, Donald Trump, et s'est déclaré prête à poursuivre la coopération mutuellement bénéfique avec ce pays. Donald Trump a réussi à remporter l'élection présidentielle en battant son rival Hillary Clinton. En réponse à cette affaire, un observateur de droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, après la discussion de la diplomatique de forum tenu par la Voix d'Indonésie de RRI à Jakarta, mercredi a déclaré que le gouvernement indonésien doit être capable de s'adapter par la nouvelle politique étrangère du gouvernement américain. Il a déclaré que l'Indonésie doit apprécier le nouveau président américain élu par son peuple.
Pertama, siapapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pilpres di Amerika Serikat, maka pemerintah Indonesia harus menghargai dan
kami memang selui kia mengkoptel les élections présidentielles américaines. Le gouvernement indonésien doit apprécier et respecter la décision du peuple américain parce que c'est le problème de la souveraineté. Deuxièmement, si Donald Trump devient président, peut-être il y aura une nouvelle politique étrangère. Le gouvernement indonésien doit s'adapter à la nouvelle politique dans le domaine du renforcement de la coopération bilatérale. Troisièmement, même il y aura la même politique étrangère que le gouvernement président, parce que la bureaucratie américaine est forte, alors même s'il y a un politicien entrant, pas nécessairement ce qu'il a fait campagne à réaliser. En outre, Hikmahanto Juwana espère que le gouvernement indonésien maintient toujours sa coopération bilatérale avec le nouveau gouvernement des États-Unis de ce qui a été fait récemment. Il a ajouté, devenir président des États-Unis, bien sûr, il aura un large impact pour la relation internationale en raison de sa politique étrangère. Le dialogue des affaires entre l'Indonésie et l'Union européenne 2016 a eu lieu récemment à Jakarta avec le sujet un accord de partenariat économique global, un nouveau cadre pour les relations commerciales et d'investissement. Ce dialogue d'affaires était assisté par le décideur et les hommes d'affaires de l'Europe et de l'Indonésie pour échanger des idées pour développer les relations commerciales dans l'accord de partenariat économique global CEPA. Cet accord vise à approfondir et à renforcer les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement entre l'Union européenne et l'Indonésie. Le commissaire pour l'agriculture et le développement régional de l'Union européenne, Phil Hogan, dans son discours d'ouverture, a déclaré que ce dialogue était une étape importante avec le lancement de négociations afin de formuler un accord de partenariat économique global.
Indonesia is a key partner of the European Union, and CETA will open the door to a combined market.
L'Indonésie est un partenaire clé pour l'Union européenne et le CPA ouvrirait la porte à un marché conjoint avec plus de 750 millions de personnes. En ce qui concerne l'agriculture et le commerce alimentaire, Le potentiel est massif. Entre 2011 et 2015, le marché agroalimentaire indonésien a augmenté de 57%. Il y a une croissance de consommateurs. Environ 45 millions d'Indonésiens aujourd'hui, qui augmentera à 135 millions en 2030. Phil Hogan a affirmé que le dialogue d'affaires a présenté aussi des discussions du secteur de l'agriculture, de la nourriture et des boissons, de la santé, de l'automobile et le transport et de la logistique. Ce dialogue d'affaires est organisé par le réseau d'affaires d'Europe et d'Indonésie et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie, étant soutenu par la délégation de l'Union européenne à l'Indonésie et le Brunei Darussalam. L'obligation d'obtenir la certification halal dans la vente des produits industriels est considérée à rendre difficile pour les entreprises et elle pourrait inhiber la flux d'investissement indonésien. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie, Shinta Wijaya Kamdani, en marge du dialogue des affaires de l'Union européenne et l'Indonésie, a déclaré que la certification halal nécessitait un long processus. La loi numéro 33 en 2014 sur la garantie du produit halal exige que les produits, y compris les premières matières, sont certifiés halal. Selon Shinta, la loi de la certification halal doit être mise en œuvre volontairement et non obligatoire. S'il est obligé, il va inhiber la facilité des affaires indonésiennes. Le principe est que la légitimation ne devrait pas rendre obligatoire, mais plutôt volontaire. C'est un aspect qui devrait être flexible. Si ce sera obligatoire, la certification ne devrait pas rendre difficile pour les hommes d'affaires d'augmenter le coût de faire des affaires. Puis à la fin, nos produits ne seraient pas compétitifs. Nous sommes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie et l'Association des hommes d'affaires indonésiens, APINDO, est aussi l'Association des nourritures et des boissons, ont déjà fait le groupe de travail. Ces rétroactions avaient déjà donné au gouvernement par nous tous. Selon Kamdani, les entrepreneurs ont questionné les règles de certification halal dans cette loi. À ce moment, la Chambre de commerce et de l'industrie d'Indonésie est en cours de faire une discussion avec le gouvernement pour renégocier la législation. Le gouvernement a promis de revoir les règles de la certification halal. Le ministre indonésien Erlangga Hartanto veut que l'exportation de l'huile de palme brute d'Indonésie vers la France se passe bien au milieu des efforts français pour imposer une taxe spéciale sur les produits de palmier à huile. À cette fin, le ministre Erlangga a rencontré l'ambassadeur d'Indonésie en France, le lieutenant général retraité Hotmangaraja Panjaitan, au bâtiment du ministère de l'Industrie à Jakarta. C'est ce qu'a affirmé le ministre Erlangga mercredi. À travers cette réunion, Erlangga fait la synchronisation afin que les exportations d'huile de palme brute, qui est assez grand vers ce pays, ne soient pas entravées. Comme cité par Antara, le Parlement français a approuvé l'imposition de taxes supplémentaires sur l'huile de palme utilisée dans l'alimentation à partir de l'an 2017. L'ajout de taxes supplémentaires vise à refléter le potentiel de dommages à l'environnement par des plantations de palmiers à huile où les taxes convenues de 90 euros ou 102 dollars américains par tonne. Ce nombre est encore loin de la proposition initiale de 300 euros en janvier 2016. Toutefois, les producteurs qui peuvent prouver que l'huile qu'ils utilisent répond aux critères de durabilité de l'environnement sera libéré. Sixième Lantin, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Journal. L'autre titre de l'information est sur le ministre de l'Industrie encourage l'indépendance de l'industrie de textile. Et enfin, l'investissement non pétrolier de l'Indonésie le plus élevé en Algérie. Voici le journal complet. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartanto, encourage l'indépendance de l'industrie textile dans le pays en renforçant la profondeur de la structure industrielle. C'est ce qu'a affirmé le ministre Erlangga mercredi à Jakarta. Pour cela, il a tenu une réunion avec l'un des producteurs de fibres de rayon en Indonésie, à savoir PT Indo Bharat Rayon, pour savoir l'état de la musique du textile en global. Selon Erlanga, il y a plusieurs obstacles pour réaliser l'indépendance de l'industrie textile dans le pays, dont l'un est le prix du gaz. En outre, l'invasion des produits importés de plusieurs pays ont également devenu un défi pour l'industrie textile nationale. Le ministre Erlanga a dit qu'après avoir observé globalement l'état de l'industrie textile, le ministère de l'Industrie émettra des politiques afin que ces défis puissent être surmontés. L'Indonésie investit dans le secteur non pétrolier et gazier le plus élevé en Algérie. Cela a été déclaré par le ministre de Communication et de l'Information, Rudiantara, dans son discours lors de la célébration de la 62e Journée nationale de la République démocratique populaire d'Algérie, mercredi à Jakarta. Selon ses observations, l'investissement d'Indonésie en Algérie a dépassé 6,2 milliards de dollars américains, y compris le nouvel investissement de la construction de l'usine de traitement de phosphate pour l'industrie, les engrais et les produits pétrochimiques. Investis par les investissements, les entreprises privées indonésiennes sont élevées à 4,5 milliards de dollars américains. Cet investissement a été enregistré comme le plus grand investissement non pétrolier en Algérie. Le ministre Rudiantara a dit que les opportunités commerciales devraient être explorées plus profondément par les hommes d'affaires des deux pays. C'est Rudiantara, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. C'est Examen Longtemps après le journal. Maintenant, vous pouvez écouter le commentaire et pour le titre, la posture du budget de l'État 2017. Le budget de l'État 2017 a été approuvé par le gouvernement et le Parlement. Le gouvernement fixe des objectifs de la croissance économique de 5,3% en 2017. Annoncé comme cible de conservateurs et réalistes, les attitudes conservatrices du gouvernement sont vues de l'hypothèse de croissance économique du gouvernement et son effet, et les recettes fiscales ciblées ne s'engagent pas. Notant le développement économique qui a été considéré comme tout à fait réaliste, si la cible de croissance économique en 2017 augmente un peu de la cible en 2016 de 5,2%, la principale considération de la détermination de l'objectif de croissance économique est la condition de l'économie mondiale qui n'a pas encore complètement récupéré. Si vous veillez au développement économique, cette attitude est considérée comme tout à fait réaliste. Bien qu'un certain nombre d'indicateurs se sont améliorés, mais l'amélioration n'est pas encore stable. Les conséquences des hypothèses de cette croissance conservatrice, la recette fiscale ne changera pas. Comme par exemple, pendant ces derniers mois, le développement des prix des produits de base ont montré une reprise, bien qu'il ne soit pas encore stable. Par exemple, les prix du charbon commencent à augmenter à cause de l'existence d'actions de la diminution de la production de charbon chinois et de troubles de production en Indonésie en raison de la forte pluviométrie. En regardant le développement de l'indicateur instable, le gouvernement devrait être réaliste dans la création du posture du budget de l'État. Une autre composante de la croissance économique est le commerce étranger qui ne peut pas être fiable, compte tenu de l'économie mondiale n'est pas encore bonne à ce moment. Dans la posture du budget de l'État 2017, montre l'objectif de recette de l'État qui est placé légèrement inférieur en 2016, de même avec les recettes fiscales. L'augmentation des recettes a eu lieu à l'acceptation des recettes non fiscales, cela est influencé par l'hypothèse de prix élevé du pétrole de 5 dollars américains par baril. Du côté des dépenses de l'État n'a pas changé de manière significative, même diminué par rapport à l'année précédente. La posture du budget est arrangée réaliste en accord avec les conditions. Avec la posture de ce budget, pour encourager la stabilité de la meilleure croissance économique. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve encore dans la rubrique L'Histoire d'aujourd'hui. Commençons avec la date du 10 novembre 1928, Hirohito a été officiellement intronisé comme le 124e empereur du Japon. Hirohito était le 124e empereur du Japon et dans l'histoire du Japon, il est l'empereur dont le règne était le plus long, à savoir de 1926 à 1989. Il était également l'un des personnages clés au cours de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction du Japon. Son règne comme empereur était connu sous l'ère de Showa, ce qui signifie la paix ou esprit brillant. Mais ironiquement, à ce moment-là, le Japon a mené une guerre contre la Chine et éventuellement dans la Seconde Guerre mondiale. En Indonésie, où l'occupation japonaise a eu lieu en 1942 à 1945, il était connu sous le nom Tenoheika, qui signifie « Sa Majesté l'Empereur ». Il a été couronné comme empereur le 25 décembre 1926, après que son père, l'empereur Taisho, était mort. Il a été officiellement inauguré le 10 novembre 1928 à Kyoto. Le 10 novembre 1945, la guerre contre les forces alliées à Surabaya s'est commencée. La bataille de Surabaya est un événement historique entre l'armée indonésienne et les troupes néerlandaises après la proclamation de l'indépendance indonésienne. Cette bataille était la plus grande et la plus lourde dans l'histoire de la Révolution nationale indonésienne qui était devenue un symbole de la résistance au colonialisme. Ce grand événement a eu lieu le 10 novembre 1945 dans la ville de Surabaya, l'est de Java. Après le meurtre du général de brigade Malabi, son successeur, le général Robert Mansurk, a lancé un ultimatum indiquant tous les dirigeants et l'armée indonésienne à signaler et placer l'armée en un lieu déterminé et se rendre avec les bras levés. La limite de l'ultimatum était à 6 heures du matin du 10 novembre 1945. L'ultimatum a été rejeté par l'Indonésie sur le motif que la République d'Indonésie à ce moment-là a déjà été établie. De plus, l'armée de la sécurité du peuple a également été établie comme l'armée de l'État. Le matin du 10 novembre, l'armée britannique a commencé une attaque à grande échelle, qui a commencé avec le bombardement aérien aux bâtiments gouvernementaux, en déployant environ 30 000 d'infanterie, un certain nombre d'avions, des chars et des navires de guerre. Au moins 6 000 jusqu'à 16 000 combattants de l'Indonésie ont été tués et 200 000 civils se sont déplacés de Surabaya. Cette bataille sanglante de Surabaya qui a pris des milliards de vies a stimulé la résistance du peuple dans toute l'Indonésie pour repousser les envahisseurs et défendre l'indépendance. Le nombre de combattants qui sont morts et des civils qui sont devenus des victimes au jour du 10 novembre était souvenu alors comme la journée des héros de la République d'Indonésie jusqu'à présent. Nous passons au 10 novembre 1963, jeu des nouvelles forces émergentes, ou Games of the New Emerging Forces, ou GANEFO, à Jakarta a été participé par 51 pays asiatiques, africains, européens de l'Est et Amérique latine. Le festival sportif du jeu des nouvelles forces émergentes, ou Games of the New Emerging Forces, ou GANEFO, est un événement multisportif pour les pays en développement créé par l'ancien président de l'Indonésie, Sukarno, comme la comparaison aux Jeux olympiques. GANEFO insiste sur le fait que la politique ne peut pas être séparée par le sport. Il est contraire à la doctrine du Comité international olympique qui a séparé la politique et le sport. Le Comité international olympique, ou CIO, a mis GANEFO en place après les critiques du CIO ayant la charge politique dans les Jeux asiatiques de 1962. parce que l'Indonésie n'avait pas invité Israël et Taïwan en raison de la sympathie pour la Chine et les pays arabes. Cette action a été protestée par le CIO parce que Taïwan et Israël étaient les membres officiels du CIO. Enfin, le CIO a suspendu l'Indonésie et l'Indonésie a été interdite à suivre les Jeux olympiques en 1964 à Tokyo. Cela était la première fois que le CIO suspende l'adhésion d'un pays. Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui depuis RRI World Service, la voix de l'Indonésie à Jakarta. Au revoir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie applique les normes nationales ou SNI à saisir les opportunités dans la communauté économique de l'ASEAN ». Le défi de l'industrie nationale sera plus grave à l'ère de la mondialisation, surtout avec la tendance des pays pour former des régions économiques telles que la communauté économique de l'ASEAN. Mais selon l'Indonésie, cette tendance n'est pas un défi, mais comme une opportunité. Cela a été déclaré par le secrétaire général du ministère de l'Industrie, M. Sharif Hidayat, à l'ouverture de la 4e exposition de Indonesia Quality Expo à Jakarta, mardi 8 novembre. Elle est organisée par l'Agence nationale de la normalisation, BSN, en collaboration avec le ministère de l'Industrie. Et la 4e exposition de Indonesia Quality Expo est soutenue par 38 entreprises, les organisations et institutions en Indonésie qui exposent de divers produits avec les normes nationales ou SNI et international ou ISO, et le service d'information pour l'évaluation de la conformité. Selon M. Sharif, l'application de la norme nationale indonésienne ou SNI est une stratégie visant à saisir les opportunités tout en gagnant la concurrence sur le marché qui est plus compétitif. Selon lui, les normes et l'évaluation de la conformité sont également devenues l'un des outils qui peuvent être utilisés pour filtrer les produits importés sur le marché intérieur. D'autre part, l'application des normes nationales peut également protéger les consommateurs contre les risques pour la sécurité, la santé, la sécurité et la durabilité environnementale. Sharif a déclaré que cette exposition faisait partie d'une manifestation concrète de l'engagement avec les parties prenantes de la normalisation et l'évaluation de la conformité afin de saisir conjointement des opportunités dans la communauté économique de l'ASEAN et d'autres libres échanges. La présence des parties prenantes à l'exposition a également montré la volonté des entrepreneurs, y compris les PME, l'organisme de certification, laboratoire et l'université, y compris le gouvernement, à mettre en œuvre SNI afin d'encourager la compétitivité des produits nationaux et de protéger les consommateurs nationaux. Le chef de l'Agence nationale de la normalisation, M. Bambang Prasetya, a déclaré « Avec un bon produit national et possède les normes nationales, l'Indonésie est de plus en plus optimiste d'entrer sur le marché mondial. » Selon Bambang, les parties prenantes doivent se réunir pour faire connaître la norme en accordant une attention aux micro et petites entreprises qui sont l'épine dorsale de l'économie nationale. En outre, il faut avoir la coopération avec les différentes parties pour que la normalisation et l'évaluation de la conformité en Indonésie puissent aller comme prévu. C'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le président Joko Widodo a félicité mercredi le président élu des États-Unis, Donald Trump, et s'est déclaré prête à poursuivre la coopération mutuellement bénéfique avec ce pays. Lula Trump a réussi à remporter l'élection présidentielle en battant son rival Hillary Clinton. En réponse à cette affaire, un observateur de droit international de l'Université d'Indonésie, Hikmahanto Juwana, après la discussion de la diplomatique de forum tenue par la Voix d'Indonésie de RRI à Jakarta, mercredi, a déclaré que le gouvernement indonésien doit être capable de s'adapter par la nouvelle politique étrangère du gouvernement américain. Il a déclaré que l'Indonésie doit apprécier le nouveau président américain élu par son peuple.
Pertama, siapapun yang akan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi pilpres di Amerika Serikat, maka pemerintah Indonesia harus menghargai dan
kami memang selui qui a remporté les élections présidentielles américaines. Le gouvernement indonésien doit apprécier et respecter la décision du peuple américain parce que c'est le problème de la souveraineté. Deuxièmement, si Donald Trump devient président, peut-être il y aura une nouvelle politique étrangère. Le gouvernement indonésien doit s'adapter à la nouvelle politique dans le domaine du renforcement de la coopération bilatérale. Troisièmement, même il y aura la même politique étrangère que le gouvernement président, parce que la bureaucratie américaine est forte, alors même s'il y a un politicien entrant, pas nécessairement ce qu'il a fait campagne à réaliser. En outre, Hikmahanto Juwana espère que le gouvernement indonésien maintient toujours sa coopération bilatérale avec le nouveau gouvernement des États-Unis de ce qui a été fait récemment. Il a ajouté, devenir président des États-Unis, bien sûr, il aura un large impact pour la relation internationale en raison de sa politique étrangère. Le dialogue des affaires entre l'Indonésie et l'Union européenne 2016 a eu lieu récemment à Jakarta avec le sujet un accord de partenariat économique global, un nouveau cadre pour les relations commerciales et d'investissement. Ce dialogue d'affaires était assisté par le décideur et les hommes d'affaires de l'Europe et de l'Indonésie pour échanger des idées pour développer les relations commerciales dans l'accord de partenariat économique global CEPA. Cet accord vise à approfondir et à renforcer les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement entre l'Union européenne et l'Indonésie. Le commissaire pour l'agriculture et le développement régional de l'Union européenne, Phil Hogan, dans son discours d'ouverture, a déclaré que ce dialogue était une étape importante avec le lancement de négociations afin de formuler un accord de partenariat économique global.
Indonesia is a key partner of the European Union, and CETA will open the door to a combined market.
L'Indonésie est un partenaire clé pour l'Union européenne et le CPA ouvrirait la porte à un marché conjoint avec plus de 750 millions de personnes. En ce qui concerne l'agriculture et le commerce alimentaire, le potentiel est massif. Entre 2011 et 2015, le marché agroalimentaire indonésien a augmenté de 57%. Il y a une croissance de consommateurs environ 45 millions d'Indonésiens aujourd'hui, qui augmentera à 135 millions en 2030. Phil Hogan a affirmé que le dialogue d'affaires a présenté aussi des discussions du secteur de l'agriculture, de la nourriture et des boissons, de la santé, de l'automobile et le transport et de la logistique. Ce dialogue d'affaires est organisé par le réseau d'affaires d'Europe et d'Indonésie et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie, étant soutenu par la délégation de l'Union européenne à l'Indonésie et le Brunei Darussalam. L'obligation d'obtenir la certification halal dans la vente des produits industriels est considérée à rendre difficile pour les entreprises et elle pourrait inhiber la flux d'investissement indonésien. Le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indonésie, Shinta Wijaya Kamdani, en marge du dialogue des affaires de l'Union européenne à l'Indonésie, a déclaré que la certification halal nécessite un long processus. La loi numéro 33 en 2014 sur la garantie du produit halal exige que les produits, y compris les premières matières, sont certifiés halal. Selon Shinta, la loi de la certification halal doit être mise en œuvre volontairement et non obligatoire. S'il est obligé, il va inhiber la facilité des affaires indonésiennes. Le principe est que la légitimation ne devrait pas rendre obligatoire, mais plutôt volontaire. C'est un aspect qui devrait être flexible. Si ce sera obligatoire, la certification ne devrait pas rendre difficile pour les hommes d'affaires d'augmenter le coût de faire des affaires. Puis à la fin, nos produits ne seraient pas compétitifs. Nous sommes de la Chambre de commerce et d'industrie d'Indonésie et l'Association des hommes d'affaires indonésiens. Apindo est aussi l'Association des nourritures et des boissons ont déjà fait le groupe de travail. Ces rétroactions avaient déjà donné au gouvernement par nous tous. Selon Kamdani, les entrepreneurs ont questionné les règles de certification halal dans cette loi. À ce moment, la Chambre de commerce et de l'industrie d'Indonésie est en course de faire une discussion avec le gouvernement pour renégocier la législation. Le gouvernement a promis de revoir les règles de la certification halal. Le ministre indonésien Erlangga Hartanto veut que l'exportation de l'huile de palme brute en Indonésie vers la France se passe bien au milieu des efforts français pour imposer une taxe spéciale sur les produits de palmier à huile. À cette fin, le ministre Erlangga a rencontré l'ambassadeur d'Indonésie en France, le lieutenant général retraité Hotmangaraja Panjaitan, au bâtiment du ministère de l'Industrie à Jakarta. C'est ce qu'a affirmé le ministre Erlangga mercredi. À travers cette réunion, Erlangga fait la synchronisation afin que les exportations d'huile de palme brute, qui est assez grande vers ce pays, ne soient pas entravées. Comme cité par Antara, le Parlement français a approuvé l'imposition de taxes supplémentaires sur l'huile de palme utilisée dans l'alimentation à partir de l'an 2017. L'ajout de taxes supplémentaires vise à refléter le potentiel de dommages à l'environnement par des plantations de palmiers à huile où les taxes convenues de 90 euros ou 102 dollars américains par tonne. Ce nombre est encore loin de la proposition initiale de 300 euros en janvier 2016. Toutefois, les producteurs qui peuvent prouver que l'huile qu'ils utilisent répond aux critères de durabilité de l'environnement sera libérée. Je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Journal. L'autre titre de l'information est sur le ministre de l'Industrie encourage l'indépendance de l'industrie de textile. Et enfin, l'investissement non pétrolier de l'Indonésie le plus élevé en Algérie. Voici le journal complet. Le ministre de l'Industrie, Erlangga Hartanto, encourage l'indépendance de l'industrie textile dans le pays en renforçant la profondeur de la structure industrielle. C'est ce qu'a affirmé le ministre Erlangga mercredi à Jakarta. Pour cela, il a tenu une réunion avec l'un des producteurs de fibres de rayon en Indonésie, à savoir PT Indo Bharat Rayon, pour savoir l'état de l'industrie du textile en global. Selon Erlangga, il y a plusieurs obstacles pour réaliser l'indépendance de l'industrie textile dans le pays, dont l'un est le prix du gaz. En outre, l'invasion des produits importés de plusieurs pays ont également devenu un défi pour l'industrie textile nationale. Le ministre Erlangga a dit qu'après avoir observé globalement l'état de l'industrie textile, le ministère de l'Industrie émettra des politiques afin que ces défis puissent être surmontés. L'Indonésie investit dans le secteur non pétrolier et gazier le plus élevé en Algérie. Cela a été déclaré par le ministre de Communication et de l'Information, Rudi Antara, dans son discours lors de la célébration de la 62e Journée nationale de la République démocratique populaire d'Algérie, mercredi à Jakarta. Selon ses observations, l'investissement d'Indonésie en Algérie a dépassé 6,2 milliards de dollars américains, y compris le nouvel investissement de la construction de l'usine de traitement de phosphate pour l'industrie, les engrais et les produits pétrochimiques. Investis par les investissements, les entreprises privées indonésiennes sont élevées à 4,5 milliards de dollars américains. Cet investissement a été enregistré comme le plus grand investissement non pétrolier en Algérie. Le ministre Rudi Antara a dit que les opportunités commerciales devraient être explorées plus profondément par les gens d'affaires des deux pays. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, encore merci de votre fidélité. d'écouter la voix de l'Indonésie. Pour la rubrique suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel et aujourd'hui, je vais vous inviter à voyager à la ville de Surabaya, Japonaise, pour connaître le monument des zéros. Chers amis, le 10 novembre 1945, il y a eu un événement héroïque. À cette époque-là, les habitants de Surabaya se battent contre les forces alliées et les Pays-Bas qui étaient sur le point de recoloniser l'Indonésie. Les batailles qui étaient la première guerre indonésienne avec des forces étrangères après l'indépendance de l'Indonésie a fait beaucoup de morts. Ainsi, pour commémorer le patriotisme des combattants et le peuple de Surabaya, le 10 novembre est désigné comme la journée des zéros. En outre, on a également construit un monument pour commémorer cet événement héroïque. Le monument qui est situé dans le centre-ville de Surabaya, précisément dans la rue de Pahlawan à Surabaya, s'est installé dans une zone de 1,3 hectares. La hauteur atteint 41,15 mètres dans une forme de palus ou un clou à l'envers. Le diamètre de la base du monument est plus grand que le diamètre au-dessous. La forme du monument est large. Il y a 10 arches et divisées en 11 segments. La haute des segments et les canalours signifient le 10 novembre 1945, la date à laquelle les habitants de Surabaya ont lutté contre les Pays-Bas. En plus d'un monument des zéros, il y a une statue de l'ancien président de la République d'Indonésie, Soekarno, et son adjoint Mohammad Hatta. La statue dépeint qu'il lisait la proclamation de l'indépendance. Dans le sous-sol de 7 mètres de profondeur de Monument des Zéros, il existe un musée qui a été organisé pour commémorer les services des zéros qui ont combattu à Surabaya, tout en préservant les objets historiques liés à la lutte du peuple de Surabaya. Le musée, donc le nom est le musée de 10 novembre, a été construit en 1991 et inauguré en 2000, par l'ancien président Abdul Rahman Wahid. Le bâtiment se compose de 2 étages. Son architecture est unique parce qu'elle ressemble à une pyramide. Au milieu de la pyramide, il y a des statues de 3 jeunes hommes qui portent des lances de bambou. Cela vous coûte 2000 rupiah comme le billet d'entrée. Le monument des zéros a été construit pendant 10 mois et a été inauguré par le président Soekarno le 10 novembre 1952. C'est différent que le musée, il n'y a pas de prix d'entrée pour profiter de la vue de ce monument ou bien pour s'y promener. Après avoir visité le monument des zéros, vous pouvez profiter d'autres attractions. Le quartier du Monument des Zéros est une zone de la vieille ville où il y a beaucoup de vieux bâtiments avec l'architecture patrimoine urbain qui est encore utilisée comme bureaux ou centres commerciaux. Chers amis, voilà cette édition, le magazine culturel ou Persona Indonesia, donc le sujet est le Monument des Zéros. Merci à tous et à demain.
Les couleurs
un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, il y a 71 ans, plus précisément le 10 novembre 1945, que l'événement héroïque a eu lieu à Surabaya, l'est de Java. Les Indonésiens, surtout le peuple de Surabaya, ont battu les troupes étrangères. Cette bataille, qui est devenue un symbole national de la résistance contre le colonialisme, était la première bataille après l'indépendance de l'Indonésie. Le nombre de combattants qui sont morts et les gens qui sont les victimes de la bataille ont rendu la ville de Surabaya plus tard comme la ville des héros et la date de l'événement de combat, le 10 novembre, était commémorée comme la journée des héros. Chers amis, le gouvernement indonésien a toujours commémoré le 10 novembre comme la journée des héros pour souvenir aux héros et aux combattants qui ont lutté pour préserver l'indépendance de la République d'Indonésie. Non seulement cela, le but de la commémoration de la journée des héros est également prévu pour construire la mémoire collective et la sensibilisation nationale et de l'État. Le gouvernement, via le ministère des Affaires sociales, a approuvé « Synchroniser les étapes pour la nation » comme le thème de la Journée des héros 2016. Cette année, le gouvernement, par le ministère des Affaires sociales, a déjà fait un programme pour commémorer la Journée des héros 2016. Un certain nombre d'activités ont été préparées à partir de la cérémonie et semer des fleurs dans le jardin de cimetière des héros à Kalibata. Puis dans l'abbaye de Jakarta, il y a aussi l'attribution des héros nationaux par le président Joko Widodo. Il y a aussi d'autres événements supplémentaires tels que marche scène, prier ensemble, l'art du spectacle, un olympique héroïque, le voyage de pèlerinage, et rassemblement d'héroïsme. Chers auditeurs et auditrices, voilà cette édition de l'Indonésie en couleur aujourd'hui. On se retrouve encore dans la prochaine édition de l'Indonésie en couleur avec des sujets aussi intéressants. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la voix d'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine musical. Comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons vous présenter des musiques indonésiennes. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.ve.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition d'aujourd'hui, coïncidant avec la journée des héros, le 10 novembre, nous vous présentons les chansons héroïques. Voici la première chanson intitulée « Gugur Bunga ». Thank you. Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Gugur Bunga. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@vu.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook, Voice of Indonesia, ou à nous suivre sur Twitter @voixindonesia. Chers auditeurs, nous nous référons à un adage, une grande nation est une nation qui respecte la mérite des héros. Cet adage est la base pour une nation et l'État pour remplir l'indépendance. Les mérites des héros ne peuvent pas être considérés comme trivial de le laisser aller sans lutte et le sacrifice des héros de nation. Les gens sont impossibles de respirer l'air libre comme nous l'avons vu à ce jour. Il y a encore des pays qui ne sont pas encore indépendants. C'est un sens pour l'Indonésie à cette époque vivait à l'indépendance. Cette liberté qui est devenue la base de la lutte pour continuer la lutte des héros pour remplir l'indépendance avec le développement et vise à atteindre les objectifs de la nation qui est prospère en toute sécurité et la juste. Diverses histoires très déchirantes de la lutte pour atteindre les objectifs de la nation, mais au milieu de la lutte, il y a l'histoire amoureuse de deux êtres humains qui s'est révélée dans la chanson intitulée Le foulard en soi. Bonne écoute.
Saat itu toute serentak di dalam hatiku. Ketika lenganku terluka parah, tercapai tujuannya.
Je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical. En foulard, en soi, comme un symbole de l'amour de jeune homme qui a du mal à atteindre les rêves de la nation, est une histoire profondément émouvante qui devrait être un exemple compléter l'histoire des deux êtres humains vivant au milieu des balles volantes et l'esprit de la lutte. L'amour ne porte pas atteinte à l'esprit de se battre pour les rêves de la nation. Bon, nous finissons notre programme en écoutant les chansons suivantes. Bonne écoute et au revoir.
Berhadapan dengan bom, meriam, tang, dan mortir, memang sulit buat arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kota kesayangannya. Mereka terpaksa harus mundur untuk kemudian melanjutkan pertempuran di luar kota. Namun, kerinduan pada Surabaya selalu mendorong hati untuk merebut kota itu kembali. Dengarlah, mereka berseru kepada ibunya, "Ibu, Aremu sudah dewasa. Kami akan kembali membawa panji-panji Pertiwi."
Surabaya, Surabaya, kini jauh di mata. Surabaya, Surabaya, kau selamanya dekat di hati. Tanjung Merah, Pasaturi, sampaikan salam kami. Katakanlah pada ibu, Arenya kini sudah dewasa.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.